Il est 22h, vous écoutez Europe 1. Et tout de suite, le journal de la nuit.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Bonsoir. L'explosion de l'épidémie confirmée noir sur blanc. 180 000 cas de Covid en 24 heures au sortir du week-end de Noël. Le gouvernement autorise les grandes surfaces à vendre des autotests. Les malades du Covid affluent à l'hôpital. Les infirmières et infirmiers de soins critiques vont toucher une prime de 100 euros par mois en reconnaissance de leur dévouement. Le télétravail, sous peine d'amende, le gouvernement s'apprête à verbaliser les employeurs qui ne se plieraient pas à cette mesure désormais obligatoire. La grande mosquée de Beauvais fermée pour 6 mois, ordre de la préfecture en raison de prêches incitant à la violence. Grishka Bogdanov est mort à 72 ans. Il avait été une figure de la télé avec son frère jumeau Igor. Le temps demain restera extrêmement doux avec des températures anormalement élevées pour la saison. L'invité éco, Philippine Dolbo, elle est la plus jeune entrepreneure de France. Et puis on découvrira les unes de la presse de demain matin.
Europe 1.
L'actualité ce soir, c'est d'abord ce chiffre, 179 807 nouveaux malades du Covid en 24 heures. On double quasiment les chiffres déjà records de Noël. À l'approche du réveillon du 31, le gouvernement demande à tous de se tester avant de rejoindre ses proches. Il autorise maintenant les grandes surfaces à vendre des tests, et cela pendant un mois, Élise Dangean.
Oui, avec cette mesure, le gouvernement entend donner plus de choix aux consommateurs, alors que les autotests sont parfois difficiles à trouver en pharmacie. Et l'argument phare de la grande distribution, outre le fait de pouvoir acheter son test en faisant son plein de courses, eh bien c'est le prix. Moins de 2 euros l'unité contre 4 à 5 euros en officine, mais sans conseil. Et c'est tout l'argumentaire des pharmaciens qui redoutent qu'on perde la traçabilité de l'épidémie, comme l'explique Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats des pharmaciens. D'officine.
On s'aperçoit que beaucoup de patients utilisent les autotests quand ils sont en contact ou quand ils sont symptomatiques. Alors que dans ces cas-là, il faut faire un test antigénique ou un test PCR. Et nous, en pharmacie, on n'arrête pas de faire du refus de vente.
Sauf que pour Michel-Édouard Leclerc, qui commercialise depuis aujourd'hui des autotests dans 2/3 de ses magasins, c'est un outil de confort complémentaire pour combattre l'épidémie.
Dès que vous avez un doute, vous allez chez le pharmacien. Mais si vous avez une soirée, un truc à organiser dans la limite justement du nombre de personnes autorisées, c'est pas mal d'avoir des autotests chez soi.
Beaucoup d'enseignes comme Carrefour ou Auchan visent d'ailleurs une mise en vente d'ici à la fin de semaine pour la soirée du Nouvel An.
Élise Dangean, 180 000 cas de Covid en 24 heures. L'hôpital est naturellement sous pression. On a dénombré ce mardi plus de 2000 nouvelles admissions de malades du Covid. Ils sont maintenant plus de 17 000 à l'hôpital. 3400 d'entre eux sont gravement malades et pris en charge en soins critiques. Jean Castex l'a annoncé ce matin, une prime de 100 euros par mois va être versée aux infirmières et infirmiers qui travaillent dans ces services de réanimation. Pour Frédéric Valtoux, président de la Fédération hospitalière de France, c'est bien le moins qu'on pouvait faire.
Ces professionnels font un boulot formidable et puis surtout n'oublions pas que ces professionnels en sont sans doute au énième report de vacances depuis 2 ans parce qu'ils sont mobilisés depuis de très longues semaines. Donc c'est un geste de reconnaissance supplémentaire et tous les gestes de reconnaissance sont bons à prendre. Mais ça ne va pas suffire à faire en sorte que l'hôpital continue aussi à maintenir une activité normale parce que le danger de tout cela, c'est les déprogrammations massives et donc il faut éviter absolument des déprogrammations massives comme malheureusement on est obligé de le faire pour tenir.
Frédéric Valtoux avec Yasmina Katou. Dès lundi prochain, télétravail obligatoire et pour garantir son retour en force, le gouvernement envisage de distribuer des amendes aux employeurs qui ne suivraient pas la règle de 3 jours par semaine minimum. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, recevait aujourd'hui les partenaires sociaux avec ce message. Carole Ferry, le gouvernement va se montrer beaucoup plus ferme sur l'application du télétravail.
Oui, et d'ailleurs, pour la première fois depuis le début de l'épidémie, le gouvernement veut donc inscrire dans la loi l'obligation de respecter la règle du télétravail, avec à la clé la possibilité pour l'inspection du travail de verbaliser les entreprises qui ne jouent pas le jeu, des amendes administratives. Et ça change tout, puisque jusqu'à présent, elle risquait une sanction pénale beaucoup plus difficile à mettre en place. D'ailleurs, aucune n'a été prononcée jusqu'à présent. L'objectif du gouvernement, c'est donc de mettre un coup de pression sur les entreprises réfractaires, un tour de vis très peu apprécié par la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, selon son secrétaire général, Jean-Eudes Duménil.
Là, ce qui va se passer, c'est que l'inspecteur du travail, en quelque sorte, aura un carnet à souche et pourra mettre une amende. Bah, je suis désolé, mais c'est pas comme ça que les choses doivent fonctionner. Ça donne l'impression que du côté du gouvernement, on peut plus simplement se baser sur la confiance et considérer les entreprises comme des partenaires et qu'il faut qu'on sorte le bâton. Voilà. Et ce qu'on leur envoie comme message n'est pas le bon.
Alors, le montant de ces amendes n'a pas encore été tranché. Il pourrait être d'environ 2000 euros par salarié, mais reste à préciser.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1. En Gironde, un homme suspecté de trafic de faux passes sanitaires placé en détention provisoire. Il est soupçonné d'avoir vendu plus de 50 faux passes en usurpant le profil numérique d'un médecin. Le corps enseignant, lui, n'a pas attendu les très mauvais chiffres de ce soir pour s'alarmer des risques de contamination en chaîne à l'école. La rentrée est maintenue lundi prochain. Jean Castex a écarté hier tout report, tout en promettant que le dépistage à l'école allait être élargi. Pas de quoi toutefois rassurer les professeurs, Thibaut Hue.
Oui, parce qu'il n'est pas question pour le moment de fermer les classes, certains enseignants déplorent un manque de moyens pour lutter contre l'épidémie à l'école. Un manque de moyens humains et matériels. Jean-Rémy Girard, président du syndicat national des lycées, collèges et écoles, était ce midi l'invité d'Europe 1.
On n'a pas de la capacité à réellement remplacer les enseignants absents. On n'a fait à peu près aucun travaux en matière d'architecture dans des salles de classe dont les fenêtres ne s'ouvrent pas ou s'ouvrent très peu. On a un nombre absolument dérisoire de capteurs de CO2. Ça fait un an et demi que le SNALC et beaucoup d'autres acteurs les réclament. Qu'est-ce qui s'est passé ? Globalement, rien.
Le gouvernement est donc en train de plancher sur de nouvelles mesures. Ce matin, Jean-Michel Blanquer évoquait la possibilité que 2 voire 3 tests positifs soient demandés aux élèves cas contact en primaire. Et concernant les capteurs de CO2, le ministre de l'Éducation a rappelé que ce sont aux mairies, aux départements et aux régions d'en faire la demande.
Thibaut Hue. Parmi les annonces de Jean Castex hier, il y a cette mesure difficile à avaler pour les voyageurs. Dès la semaine prochaine, il sera interdit de boire et de manger dans les transports, même sur les longues distances. Au lendemain de cette annonce du Premier ministre, Jean-Baptiste Djebbari rassure. Le ministre délégué au transport était aujourd'hui à Praz-sur-Arly, en Haute-Savoie. Vous l'avez suivi pour Europe 1, Jean-Luc Boujon. D'abord, ces mesures ne devraient pas s'appliquer pour les retours de vacances de Noël.
Oui, il y avait encore un flou ce matin car les choses sont en cours de finalisation. Mais effectivement, ces nouvelles contraintes dans les trains ne s'appliqueront normalement qu'à partir de lundi. Vous devriez donc encore trouver des wagons-restaurants ouverts si vous rentrez de vacances samedi ou dimanche. En revanche, rester debout pour manger sera fortement déconseillé. Vous devrez rester assis à votre place le plus longtemps possible et le repas masque baissé ne devra pas durer des heures. Les personnels de la SNCF seront toutefois souples et pragmatiques, assure le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari.
On va être évidemment très pragmatique et faire preuve de discernement sur le sujet. Il serait évidemment pas normal, par exemple, d'interdire aux gens de boire, vous voyez, ou à une mère de donner de la nourriture à son enfant. Donc on va faire évidemment beaucoup de pédagogie et faire preuve de discernement.
Alors, autre nouveauté applicable, là aussi seulement à partir de lundi, le port du masque dans le train pour les 6-11 ans. Ils en étaient dispensés jusque-là, mais il sera désormais obligatoire aussi pour cette tranche d'âge, sur le modèle de ce qui se fait déjà à l'école. Enfin, dans les avions, les longs courriers, rien ne change. Le port du masque reste obligatoire durant toute la durée du vol, sauf sur les temps de restauration, mais qui seront limités en durée. Et il n'y a donc pas de durcissement de ce côté-là.
Jean-Luc Boujon à Praz-sur-Arly, en Haute-Savoie, pour Europe 1. Le monde de la culture assommé par les dernières mesures anti-Covid, le retour des jauges pour les grands rassemblements chamboule une nouvelle fois les agendas et les espoirs de reprise. 2000 personnes maximum à l'intérieur, 5000 à l'extérieur. Aurel San, phénomène du rap qui remplit les plus grandes salles, doit annuler les premières dates de sa tournée. C'est sans compter d'ailleurs ce sentiment d'injustice chez les artistes, agacés du maintien des meetings politiques à l'approche de la présidentielle. Marie Jiquel, certains y ont d'ailleurs trouvé une source d'inspiration un peu amère.
Oui, les artistes préfèrent en rire qu'en pleurer. Ils se lancent en politique dans la course à la présidentielle. Alors bien sûr, c'est ironique pour faire passer leurs concerts, leurs spectacles pour des meetings politiques et donc pouvoir se produire.
Ben écoutez, comme apparemment les meetings politiques ne dépendront pas des jauges, il pourrait y avoir le nombre de personnes, j'annonce, je me présente aux élections présidentielles. Voilà. Donc gardez vos places de spectacle et ce sera super.
Le comédien et humoriste Jarry que vous venez d'entendre, oui. Julien Doré, Oshi, Eddie De Préto, Grand Corps Malade, ils ont tous réagi sur le réseau social Instagram. Alors chacun y est allé de son petit montage photo, posant en photo officielle à l'Élysée, proposant déjà un programme. Certains artistes invitent aussi les spectateurs à venir avec une chaise pliante dans la fosse des salles. Alors voilà, plus sérieusement, derrière la blague, nos artistes expriment aussi leur ras-le-bol et leur incompréhension, leur lassitude. On en a vraiment marre, annonçait la chanteuse Oshi sur son compte.
Marie Jiquel du service culture d'Europe 1. Alors que les patrons de discothèques s'inquiètent après une réunion ce mardi à Bercy où rien n'a été dit pour les rassurer, les boîtes de nuit ne savent toujours pas si elles pourront, oui ou non, rouvrir comme prévu le 6 janvier prochain. La dégradation brutale de la situation sanitaire, le silence du gouvernement les font pencher pour un probable prolongement de la fermeture. En Belgique, la justice vient au contraire de suspendre la fermeture des cinémas, des théâtres et des salles de spectacle. Elle estime que les autorités belges n'ont pas su apporter la preuve de l'utilité d'une telle mesure contre la propagation du virus. Le retour des jauges s'applique aussi à nos enceintes sportives, mais pour que la gêne soit visible, encore faudrait-il qu'il y ait des matchs. Or, le Covid est passé par là, Cédric Chasseur, les reports se multiplient, de plus en plus de joueurs tombent malades du Covid.
Effectivement, il n'y a que la Ligue 1 qui parvient jusqu'à maintenant à éviter les reports. Mais souvenez-vous tout de même, juste avant la trêve, Bordeaux, le PSG, Reims et Angers avaient annoncé des cas positifs dans leur rang. En rugby, le top 14 a vu son Boxing Day être amputé de 4 matchs sur les 7 programmés dimanche et lundi. C'est la même chose en basket, pas de match hier soir par exemple entre Boulogne-Levallois et Le Portel. Le Covid s'invite partout, y compris au sein de l'équipe de France masculine de handball qui tente de préparer tant bien que mal l'Euro mi-janvier. Sur les 20 appelés, 8 sont positifs plus un membre du staff, ce qui complique la vie du sélectionneur Guillaume Gilles.
La problématique pour nous, elle est avant tout sanitaire, elle est sportive parce qu'on n'arrive pas à s'entraîner dans les conditions optimales, mais c'est le lot des aventures avec le Covid. On est en train de s'adapter, de trouver des protocoles qui nous permettent et de continuer à avancer et de préparer au mieux cette compète.
Voilà, on verra quel impact cela aura sur les performances des Bleus en Hongrie. En tout cas, sans l'application d'un protocole strict à l'arrivée des joueurs, cela aurait pu être pire. On a évité une petite catastrophe, a d'ailleurs concédé le médecin de l'équipe de France.
Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1. Télégramme de Gérald Darmanin à tous les préfets de France. Le ministre de l'Intérieur demande la plus grande fermeté pour empêcher tous les rassemblements spontanés le soir du 31 décembre. Les forces de l'ordre devront aussi veiller au port du masque en centre-ville ainsi qu'à empêcher la consommation d'alcool sur la voie publique.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Le préfet de l'Oise ordonne la fermeture de la grande mosquée de Beauvais. 6 mois de fermeture. L'arrêté a été pris aujourd'hui. Il fait suite aux annonces de Gérald Darmanin le 14 décembre. Le ministre de l'Intérieur avait accusé la mosquée de Beauvais d'attaquer notre modèle républicain. Ce sont en fait les prêches d'un imam qui sont en cause. Gladys Laffitte, un imam accusé d'inciter à la violence et de faire l'apologie du djihad.
Ah oui, des prêches jugés radicaux de la part d'un imam qui intervient régulièrement à la mosquée selon la préfecture. Des prêches qui valorisent le djihad en tant que devoir, en glorifiant les combattants qu'il qualifie de héros au service de la protection de la religion musulmane qui serait menacée par les sociétés occidentales. Voilà ce qu'on peut lire dans l'arrêté de fermeture. L'imam appellerait aussi à la haine, à la discrimination des juifs, des chrétiens et des homosexuels. Mais il est aussi reproché aux dirigeants de la mosquée de ne pas avoir condamné ces propos diffusés sur les réseaux sociaux. L'association qui gère le lieu de culte a assuré avoir suspendu cet imam qui intervenait bénévolement et avoir toujours combattu le terrorisme. Un recours a été déposé devant le tribunal administratif. La fermeture doit durer 6 mois maximum avant d'être réétudiée. Une mesure prévue par la loi dite SILT, la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Il était l'un des plus célèbres jumeaux de France avec son frère Igor. Grishka Bogdanov est mort dans un hôpital parisien à 72 ans. Sa famille n'a pas souhaité rendre publique la cause de son décès. Les frères Bogdanov étaient devenus célèbres dans les années 80 avec leur émission de science-fiction Temps X. On se souvient de leur combinaison futuriste dans ce décor de vaisseau spatial. En 2012, Grishka était l'invité d'Isabelle Morizet sur Europe 1. Il avait dit sa surprise de rencontrer un tel succès et de voir le thème de la science s'ouvrir à un public aussi large à la télé.
On se rend compte, quand on en parle avec nos camarades de l'époque, personne ne connaissait. Ils étaient totalement, c'était un monde irreprésentable pour eux. Donc on s'est dit, on va faire partager ça.
Ça a duré combien de temps, Tant que ça a duré très longtemps.
Ça a duré 10 ans.
Un peu plus de 10 ans,
Un peu plus de 10 ans, oui. On n'était pas parti pour ça au départ, on pensait que ce serait une saison ou deux. On était étudiants en même temps, donc on faisait avancer les deux chemins comme on pouvait. Mais on ne s'est pas immédiatement rendu compte que ça allait vers un succès qui allait nous prendre pendant 10 ans. Et c'est ce qui s'est passé.
Voilà pour cette interview diffusée en 2012 sur Europe 1. Grishka Bogdanov s'est éteint paisiblement, écrit sa famille. Il avait 72 ans. C'est la 15e victoire de sa déjà très belle carrière. Tessa Worley a remporté ce mardi le slalom géant de la Coupe du monde de ski alpin à Linz, en Autriche. La skieuse française nous a confirmé son bonheur et sa grande forme prometteuse pour la suite.
Je suis super super heureuse de cette course. Vraiment, j'ai réussi à faire deux manches solides, c'était le but. C'est vrai qu'à Courchevel, je sentais que mon ski était là, mais j'avais pas réussi à concrétiser le podium. Et là, aujourd'hui, vraiment, je me suis sentie très bien sur mes skis, en confiance. J'ai pu vraiment pousser les deux manches et bah, ça paye avec la victoire. Donc, très très heureuse de cette journée, c'était une bonne journée. Et puis bah voilà, très heureuse aussi de pouvoir jouer parmi les filles en géant qui skient vite en ce moment. C'est vrai qu'il y a toujours eu une grosse densité et c'est toujours plaisant de pouvoir jouer sur les courses. Donc c'est parfait, on termine l'année par une victoire en espérant que ça continue sur 2022.
Tessa Worley, une nouvelle fois sacrée championne du monde de slalom géant, donc aujourd'hui en Autriche, elle répondait à Cyril de la Morinerie. Le temps pour ce mercredi, Valérie Darmon, c'est toujours des températures bien au-dessus des normales de saison. C'est aussi un ciel qu'on va voir changer en se rapprochant du 31.
Effectivement, demain, il pleuvra encore sur la moitié nord de la France, jusqu'au Massif central, aux frontières de l'Est, jusqu'en Savoie et Haute-Savoie, placés en alerte orange avalanche. Le vent souffle jusqu'à 90 km/h en bord de Manche, 70 au nord de la Loire. Et des Landes au sud-est, le soleil revient sous forme d'éclaircie, ou au moins, il est voilé. Jeudi, les effets de l'anticyclone marocain se font sentir. Il entame sa remontée vers le sud du pays, très ensoleillé. Le temps qui restera très humide et venteux au nord de la Seine jusqu'au nord de l'Auvergne et de Rhône-Alpes. Vendredi 31, c'est un très beau temps printanier qui s'impose partout. La fin de cette année qui promet d'être une des plus douces jamais mesurées depuis 1947. Un redoux spectaculaire qui est attendu à partir donc de demain, qui se généralise à tout le pays. Les maximales qui vont afficher 14 à 18 du nord au sud en fin d'année, avec des pointes à près de 24 degrés près des Pyrénées.
Merci Valérie Darmon, rendez-vous à minuit pour un nouveau point météo avec vous. Dans un instant, c'est Top à Wall Street avec Claire Lemaître. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Alexandre Lemaire.
Top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Alexandre.
La semaine avait démarré très fort hier avec des indices en nette hausse. En revanche, la séance a été plus hésitante aujourd'hui à Wall Street.
Avec un S&P 500 qui marque une pause après avoir signé hier son 69e record. Rien que ça, pour la seule année 2021, il perd 0,10% ce soir. Le Dow Jones résiste en hausse de 0,26%, 36 398 points. Et le Nasdaq, lui, recule de 0,56%. Un marché prudent, donc, et un volume d'échanges restreint en cette fin d'année, avec toujours en toile de fond le virus Omicron et ses possibles conséquences sur l'économie. Omicron qui met d'ailleurs des bâtons dans les roues du géant Apple. Le groupe a fermé temporairement ses 12 magasins de la ville de New York en raison de la flambée des cas du variant. Le titre perd 0,6%. Les autres stars de la tech terminent dans le désordre. Ça monte pour Amazon. Meta, alias Facebook, est stable, mais Alphabet, la maison mère de Google, perd 0,8%, moins 0,5% pour Tesla.
Boeing, en revanche, signe une des plus fortes progressions sur le Dow Jones.
Oui, Boeing est en forme, en hausse de 1,5%, avec de bonnes nouvelles pour l'avionneur américain. L'Indonésie a levé l'interdiction de vol de son 737 MAX, trois ans après le crash d'un appareil de la compagnie locale Lion Air. Les compagnies aériennes américaines qui était sous pression hier avec des milliers de vols annulés à cause du Covid, eh bien, elles se reprennent avec un gain ce soir pour Delta Airlines ou pour American Airlines. Un mot du pétrole, le baril de brut léger américain WTI est en hausse, plus 0,7%. On est à $76 le baril et l'euro perd du terrain face au dollar, moins 0,14%, $1,1309.
Le CAC 40, lui, continue de grimper. Il s'offre un nouveau record historique ce soir à la clôture.
Ça y est, record battu ce soir avec un CAC 40 à 7181 points. Il monte de 0,57%. Les annonces de nouvelles restrictions sanitaires en France n'ont pas surpris et les opérateurs continuent d'espérer un impact limité du variant Omicron malgré l'explosion des cas. C'est Veolia qui est en tête du CAC ce soir en hausse de 2,7%. Et puis, les valeurs liées au pétrole, elles sont dans le vert également avec les cours du brut. Total Energy gagne par exemple 0,7%. Séance positive pour les indices en Europe. Londres est toujours fermé, mais Francfort bondit de 0,8%. Plus 0,8% aussi pour Milan et pour Madrid. Plus 0,5% pour Amsterdam. Et à Paris, le CAC 40, il gagne 0,6%. 7181 points, c'est donc un nouveau record.
Merci Claire Lemaître. Elle est la plus jeune entrepreneure de France, l'invitée éco, Philippine Dolbeau. Elle était à midi dans la France Bouche sur Europe 1 et elle répond à Emmanuel Duteil et Elisabeth Assayag.
Bonjour Philippine Dolbeau.
Bonjour.
Vous avez monté New School en 2016. Vous aviez 15 ans, plus jeune entrepreneur. Hein. Vous l'avez revendu en 2019 à une autre entreprise de la EdTech, comme on dit, hein, de ces entreprises spécialisées dans l'éducation. C'était Classroom, avec un K. À la base, votre idée de New School, c'était un cahier d'appel numérique sous la forme d'une application mobile. Vous avez travaillé pendant un an chez Classroom pour développer toute la partie internationale. C'est un peu long, hein, restez, hein, parce qu'elle a un CV impressionnant.
Heureusement qu'elle a que 22 ans, parce que sinon on faisait que l'émission avec le sommaire.
C'est ça, je rappelle qu'elle n'a que 22 ans. Philippine Dolbeau, vous avez travaillé donc pendant un an chez Classroom, puis vous avez rejoint le service de communication de l'Élysée. Vous étiez en charge justement des sujets d'éducation. Aujourd'hui, vous avez énormément d'idées. Vous avez été Sherpa de la délégation française du G20. Vous allez bientôt remettre vos propositions au gouvernement, là, maintenant, pour le mois prochain. Et c'est pour toutes ces raisons, Philippine Dolbeau, que nous sommes ravis de vous accueillir, parce que vous avez une expertise extraordinaire, une expertise hors norme pour votre si jeune âge. Tiens, justement, Philippine Dolbeau, l'âge est-il un atout quand on entreprend ?
C'est une très bonne question. Bon, déjà, mille merci de me recevoir. Je suis très touchée, très heureuse d'être ici. Moi, je crois que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir monter mon entreprise quand j'étais jeune, à 15 ans, parce que j'étais complètement tarée, je pense, de monter ma boîte. Je crois que je ne me suis pas du tout rendue compte aussi de ce qui m'arrivait. Et j'ai surtout cette chance folle d'avoir rencontré sur ma route une prof qui a changé ma vie, une prof d'éco qui a décidé de nous apprendre les principes fondamentaux de l'économie en nous laissant l'opportunité de créer une entreprise fictive à l'école, qui est ensuite devenue, dans mon cas, réelle.
Ah, c'était un projet d'école à la base ?
C'était un projet d'école à la base,
donc vous étiez quoi, en classe de seconde ?
J'étais en classe de seconde, ouais, tout début du lycée. Et j'ai trouvé cette opportunité absolument fantastique, très anglo-saxonne, hein, d'ailleurs, dans la pédagogie, qui, moi, me touche beaucoup, où on avait carte blanche pour créer le projet qu'on souhaitait.
Justement, pour toute première interview, je me souviens, c'était à Europe 1, c'était avec Ecosystème. J'ai eu la chance de vous recevoir. Vous êtes venu avec votre maman à l'époque, parce que vous aviez 16 ans.
J'avais oublié, mais c'est vrai.
On était un dimanche soir, donc vous êtes venu accompagné par votre maman. Oui. Rien ne vous prédestinait, comme le disait Elisabeth, à devenir entrepreneur. Bon, vous êtes dans une famille quand même où on crée, où on a envie de se développer par la création d'entreprises. Mais comment, malgré tout, à 15-16 ans, on saute le pas au-delà du projet d'entreprise? Parce que moi aussi, je l'ai fait ça en seconde avec des copains. On avait imaginé un shampoing pour chien. Ça veut dire que c'est resté dans notre imaginaire pour les photos de mariage, mais rien de plus.
Mais il n'est pas trop tard,
Bon, je crois que ça n'était pas très intéressant. Mais voilà, comment on traduit cela dans les faits, dans la réalité?
Moi, je crois que j'ai eu beaucoup de chance. Vous parlez de ma famille, ma mère était prof, ma grand-mère était prof, donc je crois que ce milieu de l'éducation m'a toujours énormément touchée. Mon papa travaillait et travaille encore dans le domaine de l'innovation, donc quand on parle d'EdTech, effectivement, ça fait un beau mélange. Et puis, je crois que j'ai aussi eu énormément de chance de rencontrer, sur ma route, des gens qui m'ont fait confiance. J'étais dans un environnement scolaire qui m'a permis aussi, des gens qui m'ont tendu la main.
Oui, mais vous dites, tout à l'heure, vous avez dit « j'étais un peu folle ». Parce qu'à 15 ans, vous avez monté votre boîte. Mais comment s'est passé du stade du cahier au stade de « je vais lever des fonds et je vais faire un business de mon projet » Il se passe quoi dans la tête d'une adolescente de 15 ans ?
Mais je suis encore une enfant, j'ai un réhausseur.
On est tous un peu.
Écoutez, à la fin de l'année scolaire de mon année de seconde, on avait donc un petit concours où il fallait présenter nos projets. Et il se trouve que dans la salle, il y avait une personne qui travaillait chez Apple et qui en a parlé à droite à gauche. Elle s'est remontée jusqu'à l'un des directeurs d'Apple Europe qui m'a envoyé un message quand j'étais en vacances, bien tranquille, et qui m'a dit « Philippine, on a entendu parler de votre projet. Ça nous intéresse. Est-ce que vous pourriez venir demain à Londres nous le présenter ?» Donc évidemment, ça ne se refuse pas. Donc je prends mon Eurostar et je vais présenter le projet à Apple. Et c'est lui qui me convainc de monter mon entreprise, de trouver des développeurs. Et j'ai été accompagnée pendant 5 ans
par
Apple.
Ils disent quoi, vos parents ?
Oh, je crois qu'ils ont eu très peur au début. J'avais beau être bonne élève, je pense qu'ils avaient peur. Ils voyaient à quel point j'étais passionnée par le projet. Je suis quelqu'un... Avant, j'étais maladivement timide et je pense que j'aurais fait un malaise avant de rentrer dans le studio. Et ils ont vu à quel point ça m'a changé aussi. Et donc, je pense qu'ils m'ont fait confiance. Et voilà, on a fait un contrat en disant « Ok, tu continues d'avoir des bonnes notes et en échange, tu peux... » Monter ta boîte.
Mais ce qui est fou, c'est que Elisabeth le rappelait, je pense que votre âge est vraiment important. Vous avez aujourd'hui 22 ans, depuis vous avez revendu votre boîte, vous êtes resté un an en accompagnement du lancement de la boîte. On sait que c'est toujours très compliqué quand on cède sa boîte, mais quand on a 18 ou 19 ans et qu'on cède son entreprise et que vous touchez un petit peu d'argent à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on se dit?
Que c'est un peu fou, d'abord, mais je crois que ce qui m'a permis de garder les pieds sur terre, c'est la continuité de mes études. J'ai vraiment voulu passer mon bac, j'ai fait une filière littéraire. Ensuite, je suis partie à Londres faire des études de sciences et politiques de l'éducation, ça ne s'invente pas. Mais c'était mon truc, et donc voilà, il y a des jours où on passe dans le 20h de ta chaîne, où on a la chance de venir sur Europe 1, et puis le soir, il faut bosser parce qu'on a un examen d'anglais le lendemain, donc bon, on est vite rattrapé par la réalité.
Et comment ça se passait dans les relations avec les professeurs, avec les camarades? Parce que vous êtes différente à ce moment-là. Oui. Vous n'avez pas la même vie que vos camarades de classe et vos professeurs ne vous regardent pas de la même manière.
Non, et c'est vrai que ça a toujours été compliqué, je ne le cache pas. Je pense que j'ai toujours été un petit peu plus mature que les gens de mon âge. Et ça, je pense qu'être médiatisée quand on est jeune, ce n'est pas forcément la meilleure période. Ça a été compliqué, j'étais harcelée. Mais voilà, j'ai été très entourée et on est là pour parler d'optimisme et de choses qui se passent bien. Et en fait, cette expérience-là m'a changée et je pense que si je n'avais pas vécu aussi ces choses-là, un peu forcément.
Donc c'était un peu violent.
C'était un peu violent.
Les profs n'étaient pas forcément bienveillants avec
vous ? Alors les profs ont tous été bienveillants.
Non, c'est les camarades.
Et c'est plutôt voilà, ce décalage avec une vie d'adulte en fait et d'entrepreneur qui était complètement inconnu.
Ça pouvait susciter des jalousies, de l'envie.
Ce qui est fou maintenant, c'est que vous êtes conseil pour les entreprises qui auraient envie de se lancer dans l'edtech. Donc dans tout ce qui peut être l'éducation via la technologie. Vous avez accompagné 15 entrepreneurs lors du G20 en octobre.
Oui.
Mais c'est à 22 ans, certains doivent vous dire bah, « Attends, c'est bon, tu ne vas pas me raconter la vie non plus. »
Oui, bah, c'est ce qu'ils m'ont dit d'ailleurs. Les premiers clients qui étaient donc des chefs d'établissement, je venais les voir, j'avais 16-17 ans, qui me disaient « Non, mais va passer ton bac avant de me vendre ton truc. » Et ils avaient bien raison, donc j'ai passé mon bac. Mais c'est une chance inouïe. On est parti au G20, on était 15 entrepreneurs. La délégation était paritaire pour la première fois et c'est un sujet qui me tient à cœur et on en parlera tout à l'heure. Et c'est cet accompagnement, c'est ce que j'essaye de faire de manière très modeste, et vous le faites bien mieux que moi d'ailleurs, c'est de mettre en avant tout cet écosystème entrepreneurial qui demande juste à être mis en avant, avoir un petit peu de lumière et de les accompagner de la meilleure manière possible. Donc c'est un véritable honneur ce G20. Ouais.
Merci Elisabeth, merci Emmanuel. On vous retrouve demain de 13h à 14h pour La France Bouge sur Europe 1. Vous recevrez Johannes Swenen, le directeur général de Célio. Les unes de vos quotidiens demain mercredi. La une des Échos, tiens, les entreprises qui s'arment pour résister à Omicron. Elles connaissent déjà le mot qui revient à la mode, télétravail. Alors que les employeurs récalcitrants seront mis à l'amende, le télétravail va devenir obligatoire dès lundi prochain. La démocratie rénovée, la promesse oubliée, c'est la une de Libé. Il y a 5 ans, Emmanuel Macron assurait vouloir s'attaquer à l'entre-soi de la vie politique. Un mandat plus tard, rien n'a été fait, écrit Libération. Et à moins de 4 mois de la présidentielle, eh bien, le fossé demeure béant entre les élus et le reste de la société. Le Figaro a décidé de souffler quelques bougies demain, mercredi. 20 ans après, c'est le pari réussi de l'euro, notre monnaie unique qui a remplacé le franc et 11 autres devises le 1er janvier 2002 et qui depuis s'est imposé à l'international. La Croix se réjouit de cette avancée contre l'emprise de la pornographie sur Internet avec ses premiers pas pour la protection des mineurs. 5 sites X ont été mis en demeure de restreindre leur accès aux mineurs sous peine d'être bloqués en France. C'est le résultat, écrit La Croix, d'une lente prise de conscience. 22h30, vous êtes sur Europe 1. On accueille Sabine Marin pour la Libre Antenne. Bonsoir Sabine.
Bonsoir mon cher Alexandre.
Toujours avec ce large sourire.
Je suis ravie de vous retrouver. Allez, il vous reste une demi-heure pour préparer les prochaines infos.
Mais j'y vais de ce pas.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.